Session de philosophie, conférence du frère Pascal, le 9 juillet 1990 à Saint-Jodard.
Je compléterai ce que je vous ai dit ce matin à propos des différentes questions qu'on verra au point de vue philosophique. Puis je préciserai aussi, parce que je crois qu'il y en a parmi vous qui s'intéressent à la bioéthique, et comme Sœur Michaël suit la session, elle pourra une fois ou deux fois, si nécessaire, faire un petit cours ou un séminaire particulier sur cette question de la bioéthique, parce que je crois que ça peut vous intéresser. Alors je laisse le père Pascal, médecin. Vous ne le voyez pas, n'est-ce pas? Mais avant tout, père de Saint-Jean, avant tout, donc philosophe et théologien, il prépare une thèse sur le corps, sur la philosophie du vivant d'Aristote, telle qu'on pourrait la comprendre aujourd'hui par rapport à toute la science biologique. Donc, je crois qu'il peut nous donner quelque chose d'extrêmement intéressant sur l'aspect de la description, je vous l'ai dit ce matin. Alors je vous laisse tout de suite la parole. Vous n'avez pas besoin de ça.
Comme on vous l'a dit ce matin, toute notre recherche philosophique sur le corps qui nous intéresse pendant cette session part de l'expérience que nous pouvons avoir du corps. Et c'est pour ça que dans une description du corps que je vais essayer très sommairement de vous donner, il ne s'agit pas d'être exhaustif parce qu'il y en aurait pour des heures et des heures. Nous allons essayer de faire peut-être un tri et de voir quels sont les grands axes qui pourraient alimenter une description toujours plus fine de ce qu'est le corps, en vue d'en avoir comme un regard nouveau et toujours en vue de s'interroger sur vraiment ce que c'est que le corps. Bien entendu, le corps est visible. C'est par le corps que nous nous voyons, que nous sommes présents les uns aux autres. Mais beaucoup de choses du corps nous sont cachées, puisque notre peau, c'est-à-dire cache un certain nombre d'organes qui assurent des fonctions souterraines, j'allais dire, et qui ne sont pas tout à fait indifférents à la qualité de vie que va donner ce corps vivant. Aussi, l'étude scientifique de la science biologique peut apporter un certain nombre de précisions sur le rôle respectif des différents organes, des différents organes, et toujours en vue d'en préciser les rapports, les uns par rapport aux autres, et l'ordre respectif qui règne entre eux. Car le corps est avant tout un tout qui est formé d'éléments, d'organes, dont les fonctions sont hiérarchisées. Et à part la science, nous allons aussi utiliser, ce qu'utilise d'ailleurs aussi beaucoup la science, la connaissance qu'elle a du développement du corps humain pendant l'embryogenèse, qui, dans sa chronologie, peut donner des signes, des indices sur l'importance respective des différentes fonctions selon leur époque d'apparition. Et il faudra aussi peut-être aussi tenir compte du développement du corps selon toutes ses dimensions, bien sûr somatiques, physiques, mais aussi psychologiques, parce que nous sommes bien entendu en train d'étudier tout corps vivant, mais c'est le corps humain qui nous intéresse au premier chef. Et je crois qu'il est intéressant de signaler, au moins là où c'est le plus évident, et puis sans trop de démonstration, parce que ça prendrait beaucoup de temps, les notes caractéristiques que l'on retrouve par rapport au corps humain, en vue de, j'allais dire, déguiser notre interrogation sur ce qu'est le corps, et pour la recherche de demain qui va concerner le principe de vie, qui va éclairer de façon dernière ce que nous disons là en le décrivant. Donc je vais un peu prendre, pour le tout venant, selon un ordre un peu de, enfin, organisé. Je crois qu'il faut d'abord souligner que le corps humain est avant tout un corps parmi d'autres. Et la biologie le montre bien. Aucun de ces éléments, et plus on va dans l'infiniment petit, n'est caractéristique de l'homme. J'allais dire, vous avez les mêmes ions, vous avez les mêmes atomes, les mêmes macromolécules. C'est-à-dire que le code génétique qui préside au développement du corps, à la complexité près, fonctionne selon le même principe. C'est-à-dire qu'il y a un alphabet qui est universel pour tous les êtres vivants. Et cela depuis les plantes, en passant par les virus, jusqu'au vivant le plus parfait qu'est l'homme. Enfin, certains scientifiques diraient que j'ai posé un a priori en disant qu'il était le plus parfait, mais enfin, je pense que c'est pas difficile à montrer. Donc montrer que, si vous voulez, les éléments fondamentaux de la vie sont vraiment les mêmes dans tous les vivants. Donc par rapport au code génétique, par rapport aux briques, j'allais dire, qui forment le corps, que sont les protéines, qui sont des molécules de très grand poids moléculaire, et qui forment, si vous voulez, la structure du corps, et en même temps, les vecteurs d'information à l'intérieur du corps. Et là, l'étude d'anatomie comparée, de physiologie comparée, de biochimie comparée, sont très, très, très intéressants, à la fois déjà au niveau scientifique, mais même pour nous, dans une étude comparative des différents vivants, les différences nous manifestent beaucoup ce qu'est l'homme. Parce que chaque espèce animale manifeste comme une perfection, une caractéristique qui lui est propre, et les scientifiques s'en servent pour étudier certains systèmes biologiques. C'est un peu comme dans Platon, quand c'est écrit en grandes lettres chez certains et en petites lettres chez d'autres, il y a des animaux qui sont pratiquement formés que d'un système biologique en grand, qui permet donc de l'étudier de façon beaucoup plus simple que chez l'homme, où nous verrons que tout est intriqué de façon phénoménale. Alors, vous savez que Claude Bernard avait beaucoup insisté sur l'importance du milieu intérieur, et je crois qu'on peut le mettre en rapport avec la caractéristique du vivant qui est son immanence, c'est-à-dire qui est d'avoir un devenir qui lui est propre, dont il est chargé et dont il est le propre maître. Et ce milieu intérieur, il provient au fond d'une fonction qui s'exerce de façon extrêmement diverse, mais qui est universelle chez les vivants, qui est le fait de se nourrir. Et je pense que l'on peut, comme Aristote l'avait bien vu en son temps, montrer que l'axe principal au fond de tout corps vivant, c'est l'axe de l'assimilation nutritive. Assimilation nutritive qui va donc, en vertu des organes et des capacités que le vivant a d'assimiler la nourriture, produire ce milieu intérieur dont l'élément le plus, à la fois le plus visible, j'allais dire, et le plus important, c'est le sang. Mais pas que le sang, il y a d'autres liquides intérieurs qui constituent ce milieu qui permet à la fois la communication intérieure entre les différents organes et j'allais dire, qui est la vie au niveau matériel même, Et dès qu'il y a nécessité d'assimiler, on voit la nécessité d'avoir plusieurs organes, en vertu de l'énorme processus que constitue l'assimilation digestive. Et là, j'allais dire, c'est presque l'axe fondamental du vivant, qui chez l'homme est l'axe vertical, qui montre le haut et le bas. Et ça, on pourra le montrer plus profondément philosophiquement, mais vous avez donc le premier axe de central qui est cet axe du tube digestif, qui bien sûr va être en corrélation et en harmonie avec les autres axes dont nous parlerons plus tard. Toute diversité d'organes va impliquer, j'allais dire, l'autre pôle qui est le pôle de la régulation et du contrôle. En effet, toute diversité, pour être ordonnée, implique un contrôle. Et ce contrôle, chez les différents vivants, est plus ou moins sophistiqué. Chez certains, il est tout à fait archaïque. Et c'est chez l'homme qu'il est le plus perfectionné, utilisant tous les moyens disponibles, que ce soit par le système nerveux et à partir du système nerveux par ce qu'on appelle les petites molécules qui assurent la transmission des informations. Mais quant à la nutrition de l'homme, je crois qu'il, très rapidement, on peut quand même dire que l'homme, au niveau alimentaire, a une adaptabilité énorme, extrêmement grande, et que sa détermination, il n'est pas déterminé de façon aussi serrée que chez beaucoup d'animaux. Bon, il y a bien des animaux qui sont omnivores, mais je crois que chez l'homme, la place, même la transformation d'aliments, joue un très grand rôle, ainsi d'ailleurs que souvent sa résistance à une alimentation qui dépasse un petit peu, si vous voulez, ses capacités naturelles. Si vous regardez beaucoup d'autres espèces, vous avez une spécialisation même par rapport à la nourriture qui va impliquer une spécialisation de tous les organes du tube digestif, qui ça va de la bouche jusqu'à la fin de l'intestin. Alors que chez l'homme, nous trouverons cette caractéristique un peu partout. Quand nous regardons le corps humain, c'est un corps à la fois extrêmement sophistiqué, mais dont les déterminations sont les moins contraignantes possibles, compte tenu du caractère matériel de ces déterminations, qui impliquent des limites, mais qui sont les moins contraignantes. Et nous verrons que ce résultat est obtenu par la multiplicité des organes et par le caractère extrêmement complexe et fin des régulations. On a un autre aspect qui est très intéressant par rapport au vivant, à la vie physique, qui est la respiration, qui est l'autre dépendance par rapport au milieu, et qui implique comme une dualité dans ce processus nutritif et d'assimilation que, bien sûr, biochimiquement, nous expliquons par le besoin d'oxygène pour présider aux oxydations et aux réactions qui sont productrices d'énergie au niveau de l'organisme. Mais là encore, on pourra peut-être réfléchir sur la place de cette dépendance qui fait qu'au fond le milieu ambiant me pénètre, j'allais dire, et que je rejette, et pour lequel j'ai une capacité d'adaptation très réduite. L'homme résiste assez peu à l'anoxie, au manque d'oxygène. Vous avez des animaux qui ont une capacité de résister énorme, et dont la dépendance vis-à-vis de ce cofacteur énergétique est beaucoup moins grande. Alors là, je trouve qu'il faut parler de l'autre grande caractéristique, peut-être qu'on pourrait encore rajouter par rapport au milieu intérieur, tout l'aspect de la défense du soi que représente, le système immunitaire. tout le mécanisme qui fait l'homme est d'une complexité enfin, absolue, qui permet à la fois de donner au corps humain une individualité la plus poussée possible. C'est, je crois, chez l'homme qu'il y a le plus, si vous voulez, de marqueurs, ce qu'on appelle des antigènes, qui signent ma provenance, la provenance ou l'appartenance de l'organe à mon corps. On le voit bon, de façon très, très courante dans les groupes sanguins, mais dans tous les tissus, avec des systèmes qui se régulent et qui s'autorégulent, qui font que chaque individu est unique. Tandis que dans des espèces animales, d'autres, il y a bien un système de, si vous voulez, de immunitaire et d'individuation, mais qui est beaucoup moins fin. Si vous voulez, l'individuation de l'animal est beaucoup moins poussée que celle de l'homme. L'homme, vraiment, dans sa matière qu'il porte, a, je veux dire, tellement de paramètres qu'il est pratiquement impossible qu'il y ait deux individus identiques. Et d'un autre côté, ce système, donc, à la fois qui individualise, bon, me démarque du milieu qui m'environne et me permet en même temps de m'y adapter. Avec un rôle important de cette barrière, au niveau notamment du tube digestif, qui permet à la fois d'accepter l'autre dans toute la souplesse nécessaire à la croissance du vivant. Il y a l'autre pôle important qui est le pôle de la régulation. Vous voyez, vous avez le pôle métabolique qui est marqué par le cœur, les vaisseaux, tout le milieu intérieur, tout ce qui est vraiment, vous voyez, le pôle chaud, comme dirait Aristote, et le pôle de régulation qui, comme dit Aristote, est froid. Si vous voulez, vous ne voyez rien dans le contrôle. On comprend que le philosophe n'ait pas pu aller très loin dans la découverte de ce système de contrôle, puisque, si vous voulez, au niveau de la manifestation, vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas le cerveau fonctionner. C'est un système qui contrôle, c'est un système presque négatif, j'allais dire, quant à son efficience directe, vitale, mais qui préside à l'ordre. Alors chez l'homme, c'est sûr que tout le système nerveux, d'abord neurovégétatif, qui se trouve chez tous les vivants, mais le système nerveux central a une richesse unique et une complexité unique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut décrire plusieurs cerveaux si vous voulez, par comparaison aux mammifères ou aux vivants plus archaïques, on peut les comparer et les qualifier, en parlant d'archéocervelet, etc. Et vous donner au cortex, en disant qu'au fond, c'est chez le vivant le dernier apparu, selon une conception évolutionniste, enfin, qui ne nous oblige pas, mais qui donne quand même une information sur la qualité du contrôle que donnent ces structures corticales les plus perfectionnées. Et là, je pense qu'on peut déjà montrer combien chez l'homme la différenciation de ces deux pôles est presque, enfin, chez tout vivant d'ailleurs, est presque une condition sine qua non de vie. Ce pôle actif et ce pôle de régulation, ce pôle actif et ce pôle de contrôle qui va certainement n'est peut-être pas indifférent, si vous voulez, à l'emplacement des différents organes qui vont avoir une activité plus, j'allais dire, plus désintéressée vis-à-vis du vivant que sont les organes des sens. Ça permet peut-être de comprendre pourquoi on va passer donc à l'examen des organes des sens qui, chez l'homme, bien sûr, présente une structure analogue à celle des animaux. Mais là encore, on voit que dans chaque espèce, il y a comme une caractéristique, d'abord, de l'importance des organes des sens les uns par rapport aux autres. Hein, autant chez l'aigle, c'est la vue, chez le chien, c'est peut-être l'ouïe ou l'odorat, etc. Hein. Et en même temps, dans chacun des organes prépondérants, il y a une hyperspécialisation avec, au fond, une saisie d'un signal cible. Pratiquement. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a jamais une vision objective de la réalité, mais C'est une spécialisation presque du sens en vue de la du rôle de ce sens par rapport à l'animal. On a pu voir que ce que voyait un chien, ou un, approximativement, hein, ou ce que voyait un aigle quand il fond sur un... Sur, c'est une espèce d'acuité qui regarde des signaux cibles. C'est pas, vous voyez, c'est pas une vision, comme dit Aristote, qui regarde la différence. Une vision certainement moins aiguë, peut-être, moins spécialisée, mais qui est impressionnable par plus de détermination, plus de qualité. Aussi bien pour la vue que pour l'ouïe. Bon, l'odorat chez l'homme est assez faible. Et je crois que c'est une caractéristique aussi de l'organe, donc des sens, d'avoir donc une structure qui oblige le moins, si vous voulez. Mais qui implique une complexité d'autant plus grande. Et vous avez besoin de d'autant plus d'intermédiaires pour que vous ayez moins de schématisation possible. Et un contrôle d'autant plus fin pour amortir le plus de variations. Alors, pourquoi? Je crois que ça doit nous interroger sur ce qu'est le corps humain. Pourquoi est-il à la fois si complexe et si ouvert à ce qu'il atteint, à ce dont il a besoin, à ce qu'il peut toucher? Je crois que c'est une caractéristique très, très importante. Et donc, par rapport à ce qu'on disait avant, sur le pôle chaud et le pôle froid, on peut se poser la question de savoir pourquoi, pourquoi les organes des sens sont-ils à la tête? Quand j'avais lu dans Aristote, je pensais qu'il dirait que la tête, c'est, je veux dire, ce qui dirige ou ce qui conduit l'animal. Il dit que c'est parce que c'est le pôle froid et que, sans explication en fait. Et on peut se demander si cet aspect, vous voyez, de contrôle et d'un organe qui reçoit plus l'impulsion vitale que ne la produit, ne donne pas une réceptivité plus grande. C'est comme un aspect passif de la vie, réceptif. Il faudra peut-être réfléchir là-dessus. Et une autre caractéristique du corps humain, bon, c'est bien sûr d'impliquer beaucoup d'organes qui, chez d'autres vivants, soit n'existent pas comme tels, mais dont la fonction existe, mais de façon beaucoup plus sommaire. Je pense par exemple aux reins. Vous savez que la peau peut assurer, par la transpiration, une partie des fonctions qu'assure le rein, qui notamment est d'assurer la régulation de l'équilibre entre les acides et les bases, et l'équilibre de l'eau et de la tension donc artérielle. Mais il est vrai que chez l'homme, c'est un organe qui est très développé, qui est très vulnérable aussi, mais qui assure une régulation extrêmement fine du milieu intérieur. Là, je me réfère à Aristote qui disait de façon très, très, très étonnante au premier abord en disant que le rein était fait pour le bien vivre et qu'il n'est pas indispensable à la vie. Alors, vous voyez, si on garde toujours en présence le vivant que vous avez, que vous voyez vivre, avec toute la connaissance de sa qualité de vie la plus profonde et la plus ultime aussi, ça donne un regard, vous voyez, sur les organes qui assurent, j'allais dire, l'intendance en vue d'une vie aussi différenciée, aussi qualitative. Enfin, c'est des pistes hein, que j'ouvre là. Et aussi, en vertu justement des fonctions qui deviennent maintenant plus propres à l'homme. Nous allons regarder un certain nombre d'aspects qui, quoi qu'en disent certains, sont quand même spécifiques de l'homme et qui vont avoir un certain nombre de répercussions sur l'utilisation des organes en vertu de ces fonctions. Parce que il se trouve que chez l'homme, plus que chez d'autres animaux, il y a comme une multifonction des organes ou une coopération des organes qui servent à des fonctions beaucoup plus fondamentales et qui en même temps sont le support d'une fonction proprement humaine, j'allais dire. On a un petit exemple, par exemple la parole. Vous avez l'intervention de la langue. La langue qui d'abord est d'abord faite pour goûter, pour conduire les aliments jusqu'au pharynx, et permettre la déglutition. Vous avez l'intervention aussi des dents. Alors évidemment, les dents, c'est d'abord pour déchiqueter la nourriture, selon ce que chacun prend. Mais les dents jouent un rôle extrêmement important par rapport à l'appui que peut prendre la langue sur les dents et sur le palais en vue de l'articulation. Qui existe chez certains animaux, mais de façon assez univoque. Vous écoutez un merle, c'est vrai qu'il y a une certaine modulation qui se fait certainement par la langue aussi. Puis il y a l'intervention des lèvres. Des lèvres qui permettent à la fois une modulation de la caisse de résonance qu'est la bouche et permet l'articulation des phonèmes. Et vous avez ça pour beaucoup d'autres organes. Donc il y a comme une... Vous voyez, l'utilisation d'organes qui servent à des fonctions fondamentales pour des fonctions, certes physiques, certes corporelles, mais qui se rapprochent, enfin, en tout cas, pour celui qui comprend ce qu'est la parole et la signification, sont quand même propres à l'homme. Ce n'est pas qu'un cri. Même par rapport à la modulation de la voix, vous avez donc le larynx qui peut être... Qui sert bien sûr à la respiration et qui sert à la modulation de la voix en même temps que la bouche et le pharynx en vue de l'expression affective et de la communication. Donc là encore, vous savez, si vous aviez un bec d'aigle qui sert juste à attraper un mulot ou un mouton, enfin je prends des extrêmes, mais pour vous faire saisir cette détermination souple que l'on retrouve dans beaucoup d'organes, en tout cas extérieurs, qui permettent la communication. Donc alors, je crois qu'il faut donc, par rapport aux fonctions qui sont propres à l'homme, il y a certainement donc ce qu'on pourrait parler d'abord du visage, de la face, du sourire, qui certes utilise des muscles conventionnels, j'allais dire, mais dont la double commande, à la fois involontaire et volontaire, permettent l'expression, j'allais dire, de la mimique. Ça s'appelle les muscles émotionnels, qui diffèrent d'ailleurs selon certaines races. Notamment chez les races asiatiques, vous avez certains muscles qui ne soit sont inexistants, soit qui sont supplémentaires, ou qui agissent différemment. Ce qui donne cette expression particulière, et puis l'expression modulée selon la présence ou le contact que j'ai avec l'autre. Et donc ce qu'est le sourire, et là aussi toutes les études psychologiques par rapport à l'apparition du sourire, serait intéressant à découvrir et à étudier. Il y a la station debout qui alors met en jeu un autre système très important qui est l'aspect de la structure qui permet aux vivants de se tenir. Et là, il y aurait une étude très fine à faire sur la configuration des différents os, notamment pour ceux qui disent que le singe est bipède, pour montrer les différences anatomiques, même très subtiles, mais qui montrent que la station debout, contrairement à la station, j'allais dire, parfaite et la plus stable, qui implique quatre points d'appui, est une station qui se conquiert moyennant un déséquilibre permanent. Il y a des études très intéressantes sur le déplacement du centre de gravité de l'homme qui montrent qui a une oscillation permanente. Et donc, vous voyez, l'homme se tient debout dans une sorte de conquête. Et là, on le voit très bien en pathologie. Souvent, la diminution des forces vitales entraîne une station debout de moins en moins qualitative. ou une démarche de moins en moins adaptée, souple. À propos de souplesse, je crois que cette multifonction, cette complexité, je crois, est en vue d'une souplesse unique. Si vous regardez la station debout, bien l'homme est capable de la station inverse, j'allais dire, il est capable de la prostration volontaire, qui est, vous voyez, qui est carrément l'inverse de la station debout. Vous trouvez ça, à ma connaissance, chez aucun animal. Si vous regardez ça de façon qualitative par rapport à la vie de tel vivant, si vous regardez le serpent, c'est sûr qu'il est peut-être très souple, mais c'est toujours en rampant. Hein? Ou, je ne sais pas, on pourrait trouver d'autres exemples. Et vous voyez que toute pathologie ou toute diminution de la qualité de la vie de ce vivant a un impact immédiat sur cette souplesse et sur cette réceptivité et cet accueil de la réalité que présente le corps humain. Alors, pourquoi ça? Il faut aussi parler des mains. Mais là, j'en dirai pas grand-chose puisque nous avons une lecture qui nous instruit là, au sujet des mains. Mais il y aurait beaucoup à dire sur la configuration des mains, la position du pouce par rapport au doigt. La configuration des mains, la position du pouce par rapport au doigt, par rapport à ce qu'on peut trouver chez des espèces très proches de l'homme, et qui montre que, qui justifie, si vous voulez, le lien aussi direct que l'on met entre la main et l'intelligence. La main est un signe, si vous voulez. Et la main, et donc les bras, et donc la main va être le siège du geste, va nous introduire à toute la dimension d'action dont on a parlé ce matin au dernier point, à la fois la dimension éthique, la présence à l'autre, et la capacité d'agir, de transformer la matière, de faire des œuvres d'art, de travailler, et même la vie politique, je veux dire. Ensuite, il faut parler peut-être aussi de la peau, parce que la peau est... Alors comme telle, si vous voulez, elle ne présente pas de caractéristiques vous voyez, qui sautent à l'œil, parce que vous avez des stratifications que vous trouvez chez beaucoup d'animaux, mais tout est toujours dans l'agencement et dans l'harmonie des différents éléments. Avec une couche de kératine, donc c'est la partie dure de la peau, qui est extrêmement ténue. Et avec une proximité des capteurs du toucher, dans une grande variété de perceptions, qui en font un outil, enfin un donné de perception tout à fait qualitatif. Et alors, par rapport à la station debout, l'aspect bipède, vous avez donc aussi une différenciation très particulière entre la droite et la gauche. La symétrie, on a eu une petite discussion pendant le carrefour sur la symétrie ou la symétrie, mais dans la symétrie, il y a une certaine asymétrie. Une asymétrie qui est évidente au niveau viscéral, puisque vous avez des organes qui sont plutôt d'un côté ou de l'autre, et même ceux qui sont des deux côtés le sont de façon préférentielle. Et là, peut-être qu'il y aurait une étude à faire sur la place du cœur chez les différents animaux. Enfin bon, chez l'homme, il est polarisé du côté gauche. Et donc là, peut-être voir aussi la place, vous voyez, la différence encore qui est dans le corps lui-même et que manifestent les études de neurophysiologie qui montrent la diversité, par exemple, entre les hémisphères cérébraux. dont la dominante est différente. L'hémisphère dominant ou dominé est soit plus résonnant au niveau du raisonnement, ou plutôt plus affectif. Donc il y a comme encore une comparaison interne, si vous voulez, entre les deux, les côtés droit et les côtés gauche. Sans parler d'ailleurs de ce que représente cette dualité au niveau à la fois de la station debout, mais aussi de la marche, qui implique toujours ce déséquilibre et cet équilibre dans le déséquilibre. Et qui rend si important d'ailleurs le repos. Parce que l'homme travaille quand il... On pourrait d'ailleurs aussi, et là je pense à Aristote qui avait longtemps, qui se demandait pourquoi on ne pouvait pas dire que l'oiseau par exemple était bipède. Matériellement il l'est, si vous voulez, il a deux pieds. Et en analysant très, très qualitativement ce qu'est justement, que sont ces points d'appui et ce que représentent les mains chez l'homme par rapport aux ailes chez l'animal. Et toute l'organisation du squelette, qui chez l'oiseau est d'une rigidité unique. Hein. C'est un petit vaisseau léger qui est comme posé sur deux pattes. Tandis que chez l'homme, quand vous voyez, si l'on regardait en cinématographie, la cinétique, le mouvement, la manière dont le squelette se meut pendant le mouvement et pendant la marche, vous verriez que rien n'est statique. Rien n'est statique. Et c'est extrêmement étonnant de voir, quand vous voyez un cadavre, une fois que les muscles, les ligaments sont enlevés, vous n'avez plus que des petits os qui tiennent. Et notre rigidité, notre manière de nous tenir dans quelque chose qui apparemment est rigide et qui nous donne un point d'appui, est toute de souplesse en fait. C'est la tension différentielle des muscles et des ligaments qui nous donne cette station debout. Et donc la face nous montre aussi. Donc on a donc le corps humain qui est le plus différencié selon les trois dimensions, à la fois le haut et le bas, antérieur et postérieur, droite et gauche. Là peut-être que il faut peut-être en comprendre la signification. Pourquoi est-il si exposé, mais de façon aussi qualitativement différente? Rien n'est plus différent qu'entre ce qui se passe derrière vous et ce qui se passe devant vous. Alors que chez l'animal, vous n'avez pas cette différence aussi nette. Et l'avant est à la fois pas en haut et au fond, la droite et la gauche sont souvent croisées du fait de la marche. Vous avez comme une intrication pas très pure chez l'animal, oui. Tandis que chez l'homme, il y a comme une espèce d'extraction des différents éléments qui sont en germe ou de façon parcellaire chez l'animal, qui sont comme qui ont cette capacité de servir autre chose. Mais quoi ? Bon. Enfin, pour conclure, s'il y a des questions, je veux bien répondre aux questions. Mais pour vous dire enfin, qu'à la fois, je pense qu'il y a un regard, si vous voulez, qualitatif, que l'on peut avoir sur l'homme, qui peut s'aider beaucoup de ce que nous dit la science, parce qu'elle nous fait comprendre, si vous voulez, le comment et le fonctionnement, au fond, caché de tout ce qui permet à ce qui apparaît d'exister, et en manifeste, si vous voulez, la perfection, mais seulement dans la complexité. Mais que si vous voulez trouver un élément unique et propre à l'homme, vous n'en trouverez pas. Ce qui explique qu'au fond, au plan purement scientifique ou biologique, vous ne pouvez pas dissocier l'homme du genre animal. Il est un animal comme les autres. Simplement, tout est dans son organisation, tout est dans sa complexité, tout est dans son contrôle, tout est dans l'organisation qualitative est relative des différents éléments qualitatifs de la matière qui forment le corps, en vue donc de la vie de ce vivant. Et pour aller plus loin dans la compréhension du corps, il va falloir comprendre un peu ce que c'est que la vie. Et ce que nous ferons demain matin dans l'induction de l'âme, le principe de vie. Voilà, alors si quelqu'un a des questions, je veux bien répondre, ou des objections.
Il semble qu'il est ordonné vers autre chose, le corps humain, à cause de toute cette ouverture. Est-ce que ça veut dire que le corps animal est ordonné, enfin, est ordonné à lui-même,
quoi? Je crois. Encore, à la lumière de la saisie de ce qu'est la... Enfin, en philosophie du vivant, c'est difficile d'en parler maintenant, puisque nous ne l'avons pas fait. Je crois que l'homme, l'animal n'est ordonné qu'à lui-même. Enfin, ou alors, presque à la génération, à l'espèce. Son bien-être est en vue, au fond, de sa perfection de vie, qui est d'être un bon reproducteur. Sa spécialisation est en vue vraiment de sa... à la fois de son développement maximal et de sa perfection au niveau de la génération. Il n'y a rien de gratuit dans le corps de l'animal. Là, on a l'impression qu'il y a des fantaisies de la nature, vous voyez, se tenir debout comme ça. C'est vrai. Il y a un aspect dont je ne vous ai pas parlé et que montre toute l'étude du développement psychologique, c'est la place des réflexes dans la vie de l'homme. Si vous voulez, l'animal est presque totalement conditionné, ce qui fait que sa phase d'apprentissage est relativement brève. Tandis que l'homme, le petit de l'homme, j'allais dire, il a énormément de choses à apprendre. Y compris, il y a des opérations, toutes les opérations qui lui sont propres, il doit les apprendre. Ce qui montre bien qu'il y a, si vous voulez, de quoi les faire. Mais elles ne sont pas fixées. Tandis que le petit de l'animal, pratiquement même livré à lui-même, il découvrira, bon, de façon moins parfaite, si vous voulez, mais les fonctions, ils tous les font la même chose. Vous avez des petits chats abandonnés par leur mère, ils se lécheront, ils se nettoieront comme les autres, ils finiront par boire comme les autres. Et là encore, dans le devenir, l'étude du devenir... de la structuration du corps manifeste encore ça. Enfin, qui nous pose interrogation. Bien que c'est toujours des réseaux de neurones, c'est toujours un contrôle cérébral, ça utilise des muscles, une plaque neuromusculaire, tout ce que vous trouvez chez d'autres. Et oui, c'est vrai que les qualités... c'est ce qui fait qu'au fond, tel animal est tellement reconnaissable. Il a quelque chose de tellement typique. C'est une perfection partielle de vie. Donc capable de se reproduire. Ben, vous voyez, la foi, le corps de l'homme présente ce terrible paradoxe qui est vrai pour d'autres aspects, y compris même pour son squelette. La résistance, vous prenez par exemple le saut, où la résistance aux contraintes est assez faible. Si vous prenez, je ne sais pas, vous laissez tomber un animal, il est beaucoup moins fragile que l'homme, à moins que l'homme s'entraîne. Et la respiration, l'homme est quand même très très dépendant des conditions de son milieu. Il y a à la fois un mélange de dépendance et de fragilité, et en même temps d'adaptabilité. Il y a un paradoxe là, il y a une espèce de... qu'on retrouve dans beaucoup d'aspects. façon parler de la contribution de l'intelligence à la nourriture ou à l'habillement et tout ça, ça c'est encore autre chose. Un spécialiste de l'anatomie comparée, mais il me semble que c'est chez l'homme que la... Bon, vous savez que les différents... Le revêtement cutané a une correspondance proportionnelle à son... Si vous voulez, à la finesse de la fonction au niveau cérébral. Ce qui fait que tout le revêtement corporel est représenté, si vous voulez, dans les aires cérébrales, mais de façon proportionnelle à la sensibilité de telle région. En tout cas, c'est chez l'homme qu'il y a la plus grande différence. Ça doit exister chez tous les animaux. Il n'y a aucun... Vous voyez, c'est sûr que le museau chez un animal est bien plus sensible que le dos. Hein. Il y a une densité de capteurs plus grand et tout. Mais la disproportion entre la place de la main, de la face, chez l'homme, c'est fantastique. La différence entre la main et le pied, c'est énorme. Une grande main, une grande face, et puis tout le reste, c'est...
Est-ce que le médecin peut comprendre pourquoi le traitement sans lui n'est pas possible?
À cause de l'individuation si forte de l'homme. Parce que tout dans l'homme dit qu'il est lui. D'abord humain, et puis tel. Tel homme, c'est déjà vrai entre les individus d'une même... Enfin, entre deux hommes. Même si vous avez une transfusion qu'on appelle homologue, c'est-à-dire qui est compatible, vous avez plein de petits antigènes qui ne sont pas compatibles. Et qui fait que quand on répète les transfusions... Vous avez de plus en plus d'ennuis, vous pouvez en avoir de plus en plus, parce que contre les petits antigènes, il y a une formation de défense. Contre les animaux, les barrières sont beaucoup moins grandes.
J'ai demandé, depuis quand
je suis complexe.
Je ne sais pas.
votre question est complexe, parce que on pourra plus y répondre peut-être demain. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Est-ce que la trace morphologique ou du squelette est suffisante pour parler d'homme ou pas d'homme? Ça implique d'avoir découvert philosophiquement, si vous voulez, ce qui caractérise l'homme au niveau de sa vie.
Oui.
Je crois qu'il est un plafond dans une adaptation limitée à son milieu de vie, si vous voulez. Mais si vous voulez, ses fonctions spécifiquement humaines ne changent pas. Mais pour chacun, vous savez, le corps se modèle au fur et à mesure que l'on vit. À la fois, je pense notamment au système nerveux, à la fois il se détruit parce qu'il y a une dégénérescence beaucoup de ces cellules, mais en même temps, il y a un réseau qui se constitue toujours plus complexe en fonction de la vie que vous avez. Et c'est vrai aussi pour d'autres organes. Donc même vous-même, ne restez pas dans votre complexité le même. C'est une complexité dynamique.